Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Voilà, je suis là parce que votre professeur de philo n'a toujours pas été remplacé. Donc c'est moi qui, en attendant, vais assurer les cours.
La philosophie n'a plus à donner ses raisons. Je pense comme je suis et formulé comme un cri.
Voilà. D'autres questions ?
Lorsque l'État abuse, que faut-il faire ? Lorsque nous sommes convaincus, au fond de notre conscience, que ce que le gouvernement nous dicte de faire est une erreur monumentale, alors est-ce qu'il faut quand même courber les chines ? Derrière ces questions, il y a un petit ouvrage et un concept qu'on va explorer ensemble, celui de désobéissance civile, théorisé dans les années 1850 par Henry David Thoreau. Entre les hommes qui portent l'État et moi, il y a une différence fondamentale. Les législateurs et les juristes sont dans l'État. Leur monde se limite à ses bornes. Mais ils ne voient pas qu'elles ne portent pas bien loin ces bornes dans le domaine de la morale. Lorsque l'on considère la Constitution qui définit un État de l'intérieur, comme eux, alors on peut légitimement penser qu'elle est bonne et que tout va bien. De ce point de vue-là, le droit et les tribunaux sont fort respectables. Même notre État, même le gouvernement, à bien des égards, éminemment admirable, précieux et apte à susciter notre reconnaissance, c'est-à-dire, en fait, tel que le décrivent la plupart des gens. Mais lorsque l'on va considérer ces mêmes choses d'un point de vue légèrement plus élevé, elles sont telles que moi je les décris. Et si on les considère d'un point de vue encore plus élevé, du point de vue le plus élevé qui soit, qui peut dire alors ce qu'elles sont ? Ou si elles valent même la peine qu'on les regarde et qu'on y pense. Moi, le gouvernement ne m'intéresse pas. Et je m'efforce d'y accorder le moins de pensées possible. En fait, ils sont rares dans ce monde, les instants de ma vie que je passe en étant sous un gouvernement. Pour un homme dénué de pensée, dénué d'imagination, dénué d'invention, les choses qui ne sont pas ne peuvent jamais longtemps sembler être. Et les dirigeants ou réformateurs mal avisés ne peuvent pas, de ce fait, l'entraver de manière fatale. Je sais que la plupart des gens pensent probablement différent de moi. En particulier, les hommes d'État et les législateurs, qui sont si profondément immergés dans l'institution qu'ils n'ont jamais la possibilité de l'observer distinctement, dans toute sa nudité. Ils parlent d'agir sur la société, mais ne disposent d'aucun point d'appui à l'extérieur de la société. Ce peuvent être des hommes doués d'une certaine expérience et d'un certain jugement, et ils ont sans nul doute inventé des systèmes ingénieux et utiles pour lesquels nous leur sommes sincèrement reconnaissants. Mais tout leur esprit et toute leur efficacité ne valent qu'à l'intérieur d'un périmètre limité et relativement peu vaste. Ils oublient très souvent que le monde n'est gouverné ni par des mesures, ni selon le critère de l'utilité. Leur qualité n'est pas la sagesse, mais la prudence. En fait, la vérité du juriste n'est pas vérité, mais seulement cohérence, ou efficacité cohérente. En dépit de sa grande sagacité, et malgré toute son intelligence, le juriste ou le politique se montre incapable d'extraire un fait du faisceau de relations politiques dans lequel il le voit. Les hommes comme lui qui ne connaissent aucune source de vérité plus pure, les hommes qui n'ont pas remonté son cours jusqu'en des lieux plus élevés, ces hommes-là s'en remettent et s'en remettront, avec sagesse, à la Bible et à la Constitution. Ils n'en bougent plus et s'y abreuvent avec respect et humilité. Mais les hommes qui aperçoivent ce lieu plus élevé d'où la vérité sourd pour tomber goutte à goutte et emplir le lac de celle-ci ou de celle-là, ceux-là rassemblent leurs forces, prennent une profonde inspiration, luttent, s'opposent et poursuivent leur périple vers la source première. Ce qui, finalement, me fait poser la question suivante. La démocratie, telle que nous la connaissons, est-elle l'ultime progrès possible en matière de gouvernement ? N'est-il pas possible de faire encore un pas de plus vers la reconnaissance de l'organisation des droits de l'homme et de l'intelligence de l'individu ? Il ne pourra y avoir d'État réellement libre et éclairé que lorsque l'État reconnaîtra l'individu comme une puissance supérieure et indépendante, d'où dérive intégralement ses propres puissances et autorités, et qu'il le traitera conformément à ce statut. Il me plaît d'imaginer un État qui pourra enfin se permettre d'être juste envers tous les hommes et toutes les femmes, et en même temps de traiter l'individu avec respect, comme un voisin. Un État qui ne considérerait pas comme dangereux pour sa propre pérennité qu'un petit nombre d'hommes ou de femmes vivent à l'écart de sa mêlée, sans y intervenir, sans se faire entraîner par lui, tout en accomplissant tous les devoirs qui échoient aux voisins et aux concitoyens. Un État qui porterait ce genre de fruits et qui accepterait de le voir tomber aussitôt qu'il est mûr, ouvrirait la voie à un État encore plus parfait et encore plus glorieux. Mais cet État-là, je ne l'ai encore jamais vu.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Voilà, je suis là parce que votre professeur de philo n'a toujours pas été remplacé. Donc c'est moi qui, en attendant, vais assurer les cours.
La philosophie n'a plus à donner ses raisons. Je pense donc je suis et formulé comme un cri.
Voilà. D'autres questions ?